Soleil d'un jour sur Radio Lac de 11h à midi, c'est tous les dimanches et c'est en compagnie de Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco, oui. Villa Hermosa.
Où sommes-nous donc?
Veracruz.
Veracruz.
Tabasco, toujours ouais. Le Mexique.
Donc toujours les tropiques.
Toujours les tropiques.
Il fait 400 chaud.
400 km de tropiques.
Nous sommes aux tropiques, Maurice.
Quand vous dites aux tropiques, oui.
Dans les tropiques, donc.
On peut le mettre au pluriel parce qu'il y a des tropiques partout dans cet endroit. J'avais déjà quelques problèmes lors de notre dernière rencontre, Frédéric. Assis, la température, une boisson, laisser passer le jour et la nuit. Eh bien, là, je dirais que c'est un peu la même chose. Assis, à laisser passer le paysage. Parce que 400 km, ça paraît long. Et on ne s'ennuie absolument jamais. Sous ces tropiques-là, il y a d'abord plusieurs éléments. Quand on sort de Veracruz, on trouve une route qui est peut-être un peu lassante au départ parce qu'on longe la mer sans la longer.
Donc on a fait combien, 400 ?
On va faire 400 km. C'est comme si nous partions faire 400 km pour créer pratiquement l'arrondi du golfe du Mexique. Hein. Mm-hmm. Comme si vous partiez de la ville de Veracruz et que vous finissiez tout en bas sur Villahermosa. D'ailleurs, je ne sais même pas si on arrivera jusqu'à Villahermosa parce que au rythme tropical, on peut avoir envie de s'arrêter en route. Mais ce qui est impressionnant, c'est chaque fois que vous passez un fleuve, une petite rivière, on a évoqué Boca del Río, eh bien, ce sont des Bocas del Río ou de los Ríos qui se succèdent les unes derrière les autres. Et puis, tout à coup, on grimpote une colline, on surplombe un port, toutes les baraques ont des couleurs impossibles, sont un peu déglinguées. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est quelque chose qu'on ressent presque dans son physique avec la température, même si vous êtes, et surtout si vous êtes en voiture avec les fenêtres ouvertes, je n'aime pas l'air conditionné, c'est l'impression que tout ce que vous voyez n'existera plus, ou que ce que vous voyez n'existe déjà plus. Mm-hmm. Cette impression de pourriture, de passé au présent, de futur qui est déjà passé. Je m'exprime un peu bizarrement, mais
oui,
c'est
j'ai
vraiment...
rien compris là.
Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours l'impression d'avoir à la fois un temps d'avance et un temps de retard. Les tropiques, dès que vous regardez quelque chose, ça n'existe déjà plus. Mm-hmm. C'est à la fois l'ouragan, c'est la pluie qui va tomber trop fort, c'est le fait que ça se pourrit plus vite, que la maison va se déglinguer, que le bateau va échouer au bord d'une plage et qu'on va le laisser rouiller tel quel. Vous sentez cette atmosphère? Mm-hmm. Je n'ai peut-être pas donné d'image, mais c'est vraiment cela. Même le palmier nous donne cette impression, même le hamac jour va lâcher. Et c'est un peu cela.
Votre cher hamac.
Oui. En l'occurrence, rouler sur ces routes, c'est trouver des centaines de petites scènes comme ça au bord des chemins. Et plus on avancera, plus on va s'approcher d'une région que j'apprécie entre toutes parce qu'elle est surprenante. D'abord, il y avait la platitude de la région de Veracruz. Il y avait bien sûr ces cocoteraies à l'infini. Il y avait ces plantations tropicales, ces bacs ou ces ponts qui traversent justement toutes ces rivières et ces fleuves très tranquilles, très boueux, très doux, qui ne descendent même pas, qui attendent d'arriver jusqu'à la mer de façon assez lasse. Et tout à coup, vous avez des centaines de collines qui se préparent à l'horizon. Ce sont des massifs volcaniques totalement érodés. Et j'évoquais San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla. Ce massif montagneux, ça ressemble un peu au puits du centre de la France, de l'Auvergne. Eh bien, c'est une région qui naturellement va permettre à la fois la plantation du café, qui va permettre de mettre toujours ces arbres et ces fruits tropicaux en avant, mais avec un rythme qui, selon l'ondulation de la route, va permettre d'avoir un petit tas de sable tout vert avec un autre petit tas de sable tout vert. Vous voyez, comme si vous vous étiez amusé vous-même à faire des pâtés et qu'ils soient tout verts et tout végétaux. Et là, ça devient très impressionnant parce que c'est vraiment une qualité de vision qui est assez remarquable. En l'occurrence, quand vous arrivez du côté de Santiago, eh bien, vous allez carrément découvrir des villes qui, elles, ont à la fois un passé et en même temps des petits musées de rien du tout, où tout à coup, vous allez découvrir ce qui a été la civilisation mère du Mexique, c'est-à-dire les premières têtes géantes Olmec. Alors ça, c'est une vision qui moi, m'avait beaucoup touché la première fois où je suis arrivé à Santiago. Santiago, bon, c'est une fête, on y va volontiers au mois de juillet, le 25 juillet, il y a toutes sortes de choses qui s'y passent. Et j'étais arrivé un jour de fête où la place était complètement bondée, il y avait des carousels partout, il y avait des stands où l'on vendait les choses les plus odorantes qui soient, de la musique tonitruante dans tous les haut-parleurs, des processions, des gens déguisés, des pétards. Et au milieu de cette place, quelque chose qui m'a vraiment touché et fasciné. C'est une espèce de bâtisse avec un toit tout simple, justement un peu déglingué, un peu tropique. Derrière un gros carrousel, une tête de 3,40 m de hauteur qui a été sculptée il y a 2000 ans et qui a les yeux clos comme si elle était endormie, avec une bouche un peu boudeuse comme ça, un grand casque de joueur de baseball sur la tête et tranché à ras le sol, comme ça, posé au milieu de la place. C'est le témoignage peut-être le plus fou au point de vue sculpture que les Olmecs nous aient laissé. Elle peut laisser indifférent parce qu'on ne la voit pas dans un musée, parce que justement elle est posée comme un simple monument au milieu d'une place de village, mais
C'est ça qui est incroyable.
Elle a été trouvée,
pas posée dans un musée.
Elle a été trouvée par hasard dans un champ. Et c'est une des dernières, c'est la 17e tête géante qu'on a retrouvée. On a commencé au 19e siècle à en trouver quelques-unes comme ça par hasard. Bon, certaines font 2 mètres, 2 mètres 50, mais celle-ci fait 3 mètres 40. Là, faites le mouvement avec le bras et vous verrez que c'est vraiment géant. Elle est aussi large que haute. Et celle qui a été trouvée ainsi avait d'ailleurs des offrandes très curieuses. Sous elle, on a retrouvé une coupelle, on a retrouvé même un couteau d'obsidienne qui était orienté vers le nord, vers l'idée de la mort. Enfin là, c'est l'archéologue qui parle, mais c'est pour vous dire que cette tête qui a l'air endormie, c'est une tête certainement de sacrifié ou quelqu'un qui est mort de façon tragique qu'on a sculpté sur 3 mètres de hauteur pour la rendre à la fois sacrée et pour immortaliser un événement qui a dû être époustouflant, parce que c'est un peu comme si aujourd'hui on creusait et on l'a fait dans les rochers des États-Unis et des têtes de présidents, ou comme si tout à coup on mettait une statue de la liberté à quelque part. Donc symboliquement parlant, ça a dû être une chose fantastique. Et la Cobata, c'est un site qui ne ressemble à rien, on n'a trouvé que cette tête pratiquement. Et juste à côté, il y a un petit musée où on a envie de flâner, on a envie d'aller voir ce qui s'y passe. Et puis on trouve aussi dans le jardin une de ces têtes qui vous regarde, alors avec des grands yeux qui louchent, avec ses nez épatés comme les Olmecs savaient si bien les sculpter. Alors ça, c'est du basalte, ça c'est la même matière que les volcans qui sont aux alentours. Et il y a des objets comme ça qui font rêver, parce qu'il suffit des fois de très très peu de choses. Quand on va se balader aux alentours de, bon, ça je vous conseillerais pas forcément de le faire, mais quand on part de Santiago par exemple, on suit un paysan ou quelqu'un qui s'occupe de plantations, puis il dit tiens, j'aimerais bien visiter le site de Tres Zapotes. Alors, vous suivez une piste impossible avec de la terre rouge, vous passez à travers ces volcans complètement éteints et même pelés et même écrasés, et puis vous arrivez sur un site où il y a 3 statues, un petit reste de quelque chose, et là vous devez reconstruire un centre cérémoniel d'il y a 3000 ans. C'est difficile aussi, mais ce qui m'impressionne toujours, c'est de savoir qu'à San Lorenzo Tenochtitlan, à La Venta, partout, les Olmecs ont déplacé, simplement pour le plaisir de leur dieu et le plaisir de l'inframonde, 10 millions de mètres cubes de terre, de boue. Ils ont été chercher des pierres à des centaines de kilomètres, simplement pour le plaisir de déplacer, d'offrir, et puis de faire, rappelez-vous, une tête de 3,40 m de hauteur, comme si vous deviez parler d'un événement important.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul, make love your
thank you. protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Nous étions sur les traces des Olmecs, Maurice, il y a quelques minutes.
Oui, et puis en même temps, on a vu passer comme ça des bananiers, de la canne à sucre, des cacaoyers, des évéas. Enfin, il faut respirer tout cela une fois de plus. J'entends, c'est quelque chose qui dégoûte. Moi, j'aime bien ces matières-là. Ça me convient très bien. J'ai le cerveau qui fonctionne mieux avec cette température et cette humidité. C'est fascinant quand on va sur des sites perdus comme ça et qu'on accompagne un paysan du coin. Il dit, ah bah tiens, on peut passer chez un tel, ce qu'il a trouvé dernièrement une tête ou qu'il a trouvé un masque. On a l'impression de se retrouver au début du siècle avec les premiers explorateurs. On dit, tiens, il existe encore des endroits perdus. Il y a encore un site non exploré, non exploité. Bien sûr, vous me direz, sur 13 000, comme on en a au Mexique, comme on les a décomptés jusqu'à aujourd'hui, ça laisse encore un peu de marge.
En effet, oui.
Alors, Santiago, c'est toujours vallonné, c'est toujours très marqué, puis on attend autre chose. Il y a un lieu que j'aimerais vous faire partager, c'est Catemaco. Catemaco, la ville est presque aussi nulle. Une station de radio, style Radio Cocotier, une église, un petit bar, un dancing au premier étage, enfin, des petits endroits qu'on aime bien retrouver peut-être avec le temps ou des contacts qu'on aime bien chaque fois qu'il y a une fête, à Saint-André le 25 novembre, à Saint-Jacques le 25 juillet. Et Catemaco, il y a aussi des grands bals, il y a aussi des grandes fêtes comme ça, parce qu'il faut s'éclater un peu sous les tropiques, parce qu'autrement c'est assez...
On s'éclate doucement. réchauffement quand même, parce que s'il fait chaud, qu'il y a une grosse humidité.
Tiens, là, vous me donnez une idée.
Justement, pour le gringo qui vient, pour l'étranger qui vient.
Hein, une fête à Catemaco.
Ouais.
Eh bien, je me rappelle de la dernière, c'était une fête assez métisse, assez bon chic, bon genre. Hein. Je veux dire par là qu'il y a quand même des planteurs, il y a des gens qui ont de l'argent, mais il y a beaucoup de petits métisses qui en fait vivent comme ça, de l'agriculture, en marge, etc. Eh bien, c'est le hangar. Un hangar énorme où vous allez pouvoir, mettre 300 à 400 tables au minimum, style table Coca-Cola en métal avec des chaises en métal. Au fond, il y a un faux bar.
Sous les tropiques. Donc,
Le hangar. Il faut la chaleur. C'est
épouvantable.
C'est un hangar. Vous avez une scène énorme avec un orchestre avec 25 musiciens qui vont arriver et qui vont faire du tropical mais vraiment façon boom boom d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et vous payez une entrée. Qui est assez cher comparativement, ça ressemble à nos balles de campagne ici si vous voulez. Uh-huh. Et on va vous louer une table avec immédiatement une caisse de bouteilles éventuellement. Vous prenez du brandy et en même temps vous aurez des caisses de Coca-Cola à côté, donc on s'amuse beaucoup. Ça mouille beaucoup, ça je me rappelle effectivement de tonnes d'eau, de liquide, on finit par glisser et non plus danser. Il y a 2 à 3 000 personnes à l'heure de pointe et le départ au moment où
c'est
ça commence...
C'est pas vraiment les balles de nos campagnes quand même, 2 000 personnes imaginez.
Mais oui, mais chez nous je crois qu'on peut aussi trouver des grandes bastringues, enfin des moments assez impressionnants lorsque je bats un bal de Nouvel An ou des choses comme ça, il y a du monde quand même. Dans les grandes salles à la campagne, elles sont souvent pleines. Eh bien, en l'occurrence, là, il y avait beaucoup de monde et je me rappelle d'une des scènes qui m'a paru les plus incroyables, c'est le deuxième orchestre qui était supérieur au premier en qualité, qu'on avait dû payer effectivement très cher. Vraiment le bel ensemble
comme
tropical.
Dans le concert, une première partie et puis la vedette.
Alors vers minuit, où tout le monde était déjà bien parti, la salle au début est complètement vide, alors on vous installe, mais une fois que c'est plein, il n'y a vraiment plus de place du tout. C'est impossible d'être seul parce que finalement on vous colle d'autres gens à votre propre table, on ne sait plus à qui sont les bouteilles et ça se passe très bien. Et en l'occurrence, sur la scène, ou en dessus de la scène plus exactement, au moment où l'orchestre est arrivé, et je vous rappelle qu'on est dans un hangar, il y a eu un feu d'artifice.
Dans le hangar.
Oui, une sorte de cascade de feux d'artifice qui était fixe, hein, si vous voulez, et une cascade incroyable d'étoiles et d'étincelles qui descendaient comme ça de la scène et des escaliers et qui tombaient carrément sur les danseurs et les spectateurs avec, en dessus de cette lumière, le brouillard le plus absolu que j'ai jamais vu qui a fini par remplir complètement la salle. On ne se voyait plus à 2 mètres.
Oui, logique, plutôt logique.
Mais c'était bien.
Mais c'était pas dangereux, quoi.
Non plus, parce que le hangar, mon Dieu, il y avait beaucoup de métal et pas mal de béton, mais ça, c'est l'audace du lieu. Alors ça, c'est pour montrer un endroit nul qui, tout à coup, s'anime. Vous vous retrouvez, en principe, le matin, sur un coin de trottoir, en train de discuter avec quelqu'un. Il n'y a pas de taxi, bien sûr. Mais c'était le jour de la fête. Mmh. Alors, Catemaco, pour moi, c'est tout autre chose. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de vivre. On en a plein les oreilles, on en a plein les jambes, parce que les rythmes tropicaux, c'est quelque chose. Et non, j'aimerais vous installer au bord du lac. Alors, il faut le voir, ce lac. C'est un... Vous prenez une plaque d'opale et puis vous l'installez vraiment de façon très douce. Vous la glissez sur la surface de l'eau pour qu'il y ait cette brillance de la pierre, vous savez, qui est à la fois laiteuse. Ça passe du violet au verdâtre, ces espèces de mélanges curieux. Et au fond, vous avez ces volcans qui ont une précision presque diabolique. Hein. C'est vraiment la vague faite pierre et faite verdure et qui s'installe. J'ai dit 5 heures parce qu'il faut justement que du côté de l'ouest, vous ayez une couleur. Hein. Uh-huh. Que le soleil se couche petit à petit, vous prenez votre barque. Et puis dès que vous arrivez au milieu du lac, lorsque vous voyez les premières petites îles, vous arrêtez tout. Et vous laissez ce silence s'installer. Et en même temps que le silence s'installe, vous avez en même temps devant vous des milliers de choses qui bougent. D'abord noires, d'autres blanches, des aigrettes blanches, des oiseaux noirs. Je n'ai même pas envie de connaître leur nom. Et ils se posent tous sur la même île, ou plutôt tous sur les mêmes arbres, sur une toute petite île. Une île qui n'a même pas de fond. Vous avez l'impression que tout est dans l'eau. Et la première image que j'ai eue de cette île, c'est aux alentours de 5h30, lorsque la lumière a vraiment baissé. Et c'est une image qui restera toujours gravée dans mon cerveau. Il y avait là une pirogue qui était prise dans des roseaux qui n'étaient pas vraiment des roseaux, dans les mangroves qui n'étaient pas vraiment des mangroves. Et il y avait un arbre façon japonisante, avec des racines et des branches très étranges, et sur une paire de branches, un pêcheur, avec son chapeau qui s'était installé, qui était comme installé, je dirais, dans la forme de l'arbre, qui avait celle d'un hamac, et la pirogue. Le silence, et là-haut, un bruitage incroyable, des milliers, des millions d'oiseaux, blancs, noirs, qui s'installaient dans l'arbre. Thank you.
and the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright on that train.
Carrément installé un Mac, Maurice, dans mon bateau.
Alors, je suis en train de regarder les jacinthes d'eau. Là, je suis complètement dans l'histoire. C'est vrai qu'il suffit d'un plan d'eau extraordinaire, qu'il suffit d'un peu de lumière particulière. Et puis ces oiseaux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette image blanche, noire. Bon, là, c'est vrai, c'est de la nostalgie pure, mais en même temps, c'est ce côté genèse, création du monde. On n'est obligatoirement qu'avec ses deux yeux au début de la création, comme si on avait le droit là, d'installer ces volcans éteints, d'installer cette chaleur aussi, parce que on est tellement bien. Là, à partir de 6 heures, au moment où le soleil s'est couché, votre corps a exactement la température qu'il faut par rapport à l'air et à l'ambiance générale. C'est-à-dire que vous êtes en harmonie absolue avec la nature, et ce lieu, par rapport aux oiseaux, par rapport à ce que je décrivais, ben vous avez envie vous-même de vous nicher, comme le pêcheur de tout à l'heure dans son arbre, de vous nicher, et puis bon, eux, ils se poussent un peu, ils cherchent leur parce qu'il n'y a plus de place, hein, entre les noirs et les blancs, et ils s'entendent assez bien d'ailleurs, mais il y a vraiment l'aigrette, elle a changé 15 fois de place avant de trouver son nichoir pour la nuit, et puis elle fait ça tous les jours, et puis elle se renvole, elle revient, ça chamaille. Alors c'est à la fois ce silence absolu de l'endroit, cette nature vraiment virginale, parce qu'il n'y a pas une lumière à l'horizon. C'est un lac, bon, du côté de Catemaco, bien sûr, les lumières vont s'allumer, c'est quand même un mini port, il y a quelques petits endroits pour dormir, c'est une ville. Mais où on est maintenant, là, à peine à quelques minutes de...
On est en pleine nature, là.
Oui, le bord de l'eau est complètement vierge. Et à quelques centaines de mètres de là, juste avant d'arriver, ben vous auriez pu visiter un endroit qui me fascine aussi. On nous y emmène assez facilement. Il y a eu d'ailleurs plusieurs films qui ont été tournés dans cet endroit à cause de ce côté végétal et cette nature remarquable. Et c'est surtout le fait de retrouver là un lieu qui est habité par un... Il y a plein d'excentriques, hein, des endroits comme ça. C'est quelqu'un qui a monté à la fois un endroit écologique en voulant le protéger. Il y avait une source. Il y a une source d'eau douce et je dirais surtout de il y a les volcans, hein, une eau particulièrement pure et qui a un petit goût quand même sulfureux, assez curieux, qui arrive dans le lac même. Alors vous me direz, c'est de l'eau douce, hein, c'est difficile de savoir quelle est la... Mais c'est une source qui en même temps bouillonne comme ça de façon étrange et permet d'obtenir une sorte de boue parfaite qui permet des bains de boue en l'occurrence. Alors ça, c'est en pleine jungle, vous avez des feuilles comme ça qui sont aussi grosses que des parasols qui sont à côté de vous, vous avez des vieux cabanons. Alors comme c'est un endroit où se réunissent dans la région de Catemaco, il y a plein de sorciers. On dit même que c'est un des lieux du Mexique où il y en a le plus, enfin des guérisseurs, hein. Alors ces guérisseurs vivent en ville, dans les villages, mais une fois par année ou deux fois par année, ils se retrouvent dans cet endroit qui a quelque chose de magique, c'est vrai, au point de vue nature, et ils s'installent là, ils passent une nuit ou deux, il y a des sortes de congrès, enfin...
Un colloque de sorciers.
C'est complètement fou d'imaginer cela, de vivre cela, et en même temps d'y retourner, même s'ils ne sont pas là, parce qu'il y a l'ambiance. Alors, bien sûr qu'on a laissé la cabane où il y a à la fois un sorcier qui peut vous accueillir, vous avez une bougie qui est allumée dans un coin, on joue au mystère, vous êtes dans cette pénombre, vous passez des ponts de lianes. On joue pratiquement au film ou au décor des films qui ont été abandonnés sur cet endroit. Hein. Uh-huh. Donc, c'est un peu du James Bond revu et corrigé de la façon mystique comme ça. Alors, ça fait un mélange curieux, parce que vous avez ces gens qui sont en bas en train de se barbouiller debout, ils se sont fait des masques, ça clapote dans l'eau, vous passez, vous voyez un parc à alligators, un peu plus loin il y a des oiseaux qui sont perchés sur les arbres, on ne sait pas s'ils sont en liberté ou si on leur a attaché la patte. C'est complètement fou, parce qu'on ne s'attend pas à trouver ça non plus au bout d'un lac, au bout du monde. Et avant les oiseaux, je me serais encore arrêté sur une île qui m'a aussi paru assez étrange la première fois où je l'ai visitée. On s'approche avec le bateau, et tout à coup on voit les branches qui bougent. Et puis tout à coup, une toute petite bestiole sympathique avec une longue queue, et puis la maman qui suit derrière. Il y a des centaines de singes rhésus. Alors ça, c'est pour des questions médicales, mais des îles entières qui sont occupées par des singes. Alors bon, je crois que l'homme n'est qu'homme, qu'il est peut-être descendant de cet animal, mais on adore regarder cela. Et cette impression de liberté fait que ces singes ne s'enfuient pas parce qu'ils n'aiment pas trop l'eau, ou s'ils se baignent, c'est pas souvent. Mais ce qu'ils aiment bien, Frédéric, c'est qu'on peut leur lancer quelque chose à manger, où ils ont été nourris. C'est de voir comment fonctionnent ces familles entières de petits singes qui sont isolés sur ces petits îlots. C'est assez curieux, c'est aussi une façon de montrer qu'en pleine nature, on peut être à la fois écologique et zoologique.
Yeah.
Mais on vient de croiser un cheval, on croise des singes aussi.
Ici. Oui, on était sur le bateau, on peut abandonner le lac. C'est marrant, votre rythme un peu américain, là, me fait penser à ce qu'on découvrirait juste après le lac de Catemaco. Il y a une route qu'on emprunte très peu souvent, elle est peu sûre, il faut le dire, elle est assez difficile. C'est la route qui traverse complètement... Regardez sur la carte où nous sommes, Frédéric, vous serez étonné, c'est l'endroit le plus étroit qui soit. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'endroit qui correspond à ce qu'on appelle l'isthme de Tehuantepec. Alors ça me fait vraiment penser à cette doublure en fait qu'on a créée il y a quelques dizaines d'années, cette doublure du canal de Panama. Alors, c'est une histoire assez fantastique parce que l'idée de percer un canal là où nous sommes, c'est à travers l'isthme de Tehuantepec, mm-hmm. pour lier en fait le golfe du Mexique où nous sommes. Enfin le lac est tout près, hein, le lac qu'on vient de visiter, qu'on a traversé, qu'on a tenté de découvrir. Il est en fait à quelques centaines de mètres de cette côte atlantique et du golfe. Et le Pacifique, il n'est pas si loin que ça, finalement. Déjà au XVIIIe siècle, on y a pensé. Il y a même un vice-roi qui s'appelait Bucareli. Il y a une place Bucareli, il y a des monuments Bucareli à Mexico. Et il avait fait... C'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Il y avait eu de véritables travaux topographiques pour voir les différentes altitudes. Et il avait l'intention...
À l'époque, XVIIIe siècle ?
Au XVIIIe, il avait l'intention de creuser une voie d'eau entre... Coatzacoalcos, que tout le monde connaît, il n'y a pas de mot plus facile que celui-ci. Et puis Salina Cruz, qui est une ville que j'aime beaucoup, complètement déglinguée aussi du côté pacifique, mais alors qui a un aspect complètement chinois, et qui était une ville totalement chinoise. Et par la suite, il y a eu le fameux baron de Humboldt, qui a passé par là, qui a visité un peu toute l'Amérique latine, avec des ingénieurs britanniques, il y a eu des Américains qui sont venus, et il y a eu ensuite Ferdinand de Lesseps, qu'on connaît un peu mieux, bien sûr, qui lui a finalement réussi à faire le canal de Panama, ce qui a arrêté un peu l'idée de notre canal de Tehuantepec. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand on voit l'endroit par rapport aux États-Unis, on était plus près. Donc ça intéressait beaucoup les gens du Nord. Là, votre chanson me faisait penser à tous ces gens qui habitaient New Orleans, qui habitaient San Francisco. Ils disaient, oh là là, si je pouvais passer rapidement de New Orleans à San Francisco. Eh bien, on a trouvé une autre solution, parce qu'en fait, c'est pas très grand. Ça représente 195 kilomètres, donc c'est pas énorme. Hein. Ça fait même beaucoup moins que la traversée la plus courte de la Suisse. Hein. Quand on pense au canal du Rhône au Rhin, ça représente à peu près la même distance. Et finalement, au XVIIIe siècle, c'était complètement irréalisable. On a essayé de voir si ça pourrait fonctionner un jour. Bon, il y avait des problèmes financiers. Au XIXe siècle, on a trouvé une autre solution. C'est-à-dire que même juste avant l'établissement des relations ferroviaires qui ont été installées entre les deux côtes des États-Unis, on a pensé à ce moment-là. Il y a eu d'ailleurs une compagnie, une entreprise américaine qui s'appelait la Tehuantepec Railways Company of New Orleans, puisqu'on parlait de Nouvelle-Orléans tout à l'heure. Eh bien, elle a ouvert une ligne de communication entre la Nouvelle-Orléans, justement, et San Francisco et la côte ouest des États-Unis. C'est intéressant parce qu'on imagine très bien ce que devaient faire les gens, c'était y passer par l'isthme de Tehuantepec. Donc ils arrivaient depuis Nouvelle-Orléans, ils descendaient tout le golfe du Mexique, ils s'arrêtaient à Coatzacoalcos, et là, et un bateau qui était propulsé, il y avait des roues à eau qui effectuaient le même service qu'on retrouvait sur le Mississippi, remontait tout le rio Coatzacoalcos jusqu'à Suchilapan, et là, les voyageurs étaient transportés en chariot, ou même à dos d'homme, hein, s'il le fallait, et il y avait des passages extrêmement difficiles, jusqu'à Salina Cruz, où ils reprenaient la mer à destination de San Francisco. Alors, quand on pense à cette voie de chemin de fer qui va être construite entre Coatzacoalcos et Salina Cruz en 1907, on comprend qu'on venait pour la première fois de créer vraiment un transbordement beaucoup plus pratique et rapide entre l'Atlantique et le Pacifique. On comprend aussi mieux pourquoi ces deux villes ont gardé cette espèce de nostalgie du passage. Quand on dit Panama, pour tout le monde, ça évoque bien sûr cet entre-deux mondes, cet entre-deux mers.
Qu'est-ce qu'on y trouve, Maurice, du côté de,
de
ce mot impressionnant?
Je suis sûr que vous
n'arriverez jamais à le prononcer.
Non, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais Coatzacoalcos aujourd'hui, on évite le lieu. C'est une grande ville, qui a explosé, tout comme Villahermosa, qui est le but de nos 400 kilomètres d'aujourd'hui. Ce sont des villes qui ont explosé à cause du pétrole. On a découvert du pétrole dans les années 40, on voit à l'horizon des torchères un peu partout, ça change un peu, des cacaoyers, des bananiers, et en fait partout il y a des routes qui aujourd'hui sont gérées par la Pemex, les Petroleos Mexicanos, donc cette ambiance pétrolière on la sent partout. Mais Coatzacoalcos aujourd'hui pour moi c'est d'abord un pont qui passe justement sur cette incroyable rivière qu'on remontait avec ces vieux bateaux à aubes, que j'évoquais à la fin du siècle dernier, et ce pont il a quelque chose de fascinant, parce que d'abord il est terriblement long, ce sont ces ouvrages modernes, vous savez, avec un peu comme ceux de San Francisco, avec ces systèmes en filin
et qui
partent de la terre molle et qui arrivent sur la terre molle. On ne sait pas où commence l'eau et où commence la terre, hein. C'est vraiment le marais parfait, et puis on monte tellement haut au milieu du pont qu'on voit la fin du fleuve, on a l'impression de découvrir déjà l'Atlantique d'un côté, puis on remonte jusqu'à l'intérieur ces terres marécageuses, il y a quelques épaves, il y a de nouveau quelques bateaux qui traînent. C'est absolument somptueux. C'est un côté Apocalypse Now, comme ça, quand vous passez la nuit. Et le jour, il y a même un mirador particulier pour admirer la forme même du pont.
Il fait combien, ce pont ?
Je n'ai pas la longueur, mais il fait plus de 2 à 3 kilomètres. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je peux me tromper dans la longueur, c'est pas grave. Mais il est immense parce qu'il est en pleine nature. Il est dans un lieu qui, en soi, est déjà un peu fou et qu'on devait traverser avec des bacs auparavant, avec des difficultés, des inondations, selon la saison. Au moment de la saison des pluies, on prend des gouttes d'eau comme des soucoupes sur la tête. En l'occurrence, quand on se retrouve dans le coin, eh bien, il suffit ensuite de glisser doucement à travers ces torchères pour retrouver à la fois la Venta et puis peut-être tout au bout cette fameuse Villa Hermosa.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Allez, on vient de dépasser ce pont à péage. De quel côté on se dirige ?
Ah, j'évoquais la Venta. Alors la Venta, c'est un peu plus loin. Bon, c'est pas très visible le long de la route parce que c'est un site qui est abandonné pratiquement au tourisme et à l'archéologie, qui a été abandonné aux alentours de 1940. Je m'explique, c'est une île dans ses marais qui ne ressemble pas à une île d'ailleurs, on voit pas où est l'eau, on voit toujours pas où est la terre, et finalement elle a une forme de 8, comme si vous posiez un 8 en plein milieu de la boue, et on y a retrouvé une pyramide, la première pyramide chronologiquement parlant du Mexique. Elle fait quelque chose comme 130 mètres quand même de diamètre, et elle monte à 30 mètres de hauteur, donc dans un endroit qui est plat, vraiment comme on peut pas rêver d'avoir plus plat. C'est une fausse montagne. Alors, comme vous avez déjà roulé passablement, vous vous rappelez de ces petits sommets remarquables de la Stuxlas, de cet endroit où il y avait du basalte, où il y avait des volcans, et là tout à coup vous êtes dans la boue. Et on comprend que les gens qui se sont installés là en 1000 avant Jésus-Christ ont voulu imiter les volcans de la Stuxlas et ont été chercher des gros cailloux du côté de la Stuxlas, les ont fait descendre avec des radeaux. Vous voyez que les Sèpes et d'autres,
vous parliez des Olmecs tout à l'heure, qui ont ramené énormément de...
Ce sont les Olmecs, et qui ont sculpté ces têtes géantes. Alors, on a fouillé je dirais presque en douce, pour ne pas dire en catastrophe, dans les années 40, ce site de La Venta, parce qu'on avait découvert le pétrole et qu'il fallait trouver un endroit suffisamment stable pour poser une piste d'atterrissage. Et on a choisi le site archéologique de La Venta pour faire une piste d'aviation. Donc on a carrément supprimé archéologiquement ce site jusqu'à il y a quelques mois, quelques années.
En fait, il a été recouvert quand même.
Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on l'a occupé par les pétroles mexicains, donc il a fallu en catastrophe fouiller l'endroit, savoir que la pyramide était là, tout abandonné, prendre des hélicoptères, déplacer toutes les pièces importantes qu'on avait retrouvées et puis les installer dans une espèce de parc archéologique qui se trouve dans la ville même de Villahermosa. Alors c'est sympa parce qu'on a remis l'eau, on a remis les alligators, on a remis les singes, on a remis un peu l'ambiance dans un parc tout à fait artificiel, et ça permet de visiter à la fois le côté musée en plein air avec toutes les pièces posées au milieu de cette nature refaite, et puis aujourd'hui de revisiter avec des faux malheureusement, mais et surtout la pyramide qui maintenant est dégagée, le véritable site. Et quand on est au sommet de ces 30 mètres et qu'on voit cette jungle autour avec les quelques torchères qui restent, je crois qu'on comprend que la première civilisation qui s'est installée ici il y a 2000 ans, 3000 ans était faite de gens qui avaient compris que 260 ou 250 jours de pluie par année, c'était plus important que n'importe quoi. Tout y pousse, hein. On a l'impression qu'on peut manger tous les jours, on a l'impression qu'il suffit de rien pour avoir à la fois le résultat ou en tout cas le dessert agricole, et puis en même temps de pouvoir chasser, pêcher. Enfin, vous avez remarqué que tout grouillait et que tout vivait dans cet endroit. Je crois que c'est là où on peut commencer. C'est pas sur un sommet qu'on commence la vie. C'est toujours dans ce. Moi, je reprends une image que je donne souvent. C'est celle de mon enfance où pour la première fois, on pose une lentille sur de la ouate humide et on attend que le germe sorte. Ouais. Ben, c'est ça. Hein. La civilisation, c'est ça aussi. C'est l'humidité, la chaleur, cet endroit peut-être un peu lascif qui, au contraire, permet justement la naissance véritable de la vie. Même si aujourd'hui, on a envie de la passer dans son hamac, comme on l'a fait depuis 400 km. Et arrivé à Villahermosa, c'est une ville qui explose. Je n'ai même pas envie de donner un chiffre par rapport aux habitants. C'est une ville que j'ai connue à 40 000 habitants, qui en a 400 000 aujourd'hui. Ça va continuer à exploser. Le pétrole, l'argent, les vaches qui n'y voient plus clair du tout dans leur herbe d'un mètre de haut en plein marécage. Un mélange de lait et de pétrole, c'est assez curieux. C'est exactement comme cela qu'on ressent la capitale du Tabasco. Une ville où je dirais circuler, il n'y a rien à voir. Un très beau musée, le parc archéologique de La Venta. Mais surtout, une ambiance Far West complètement incongru sous ce climat, avec j'irai boire un verre au Red Bull, un endroit glauque au possible avec des lumières impossibles. C'est vraiment le Far West, c'est le 19e sous les tropiques avec tous les vices de la fin du 20e siècle. Ça vous irait?
Oui, on garde donc le chapeau, les Santiago, on y reste pour dimanche
vous
prochain.
Vous auriez même avantage à avoir le Colt au côté, au pire, si vous vouliez vous défendre contre les agressions sympathiques de ces demoiselles. Et dimanche prochain?
Oui.
Si vous vous en sortez, et si vous sortez de Villahermosa, pourquoi pas aller du côté de Palenque et continuer le voyage, peut-être remonter carrément tout le Campeche. J'aime bien le mot Campeche, on parle de bois du Campeche, c'est encore très exotique. Tout en haut, il y aura la savane, tout en haut, il y aura peut-être un peu plus de sécheresse, le Yucatan. On a le temps, le Mexique est long, c'est une véritable transmexicaine qu'on est en train de faire.
À dimanche.